VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydie Abidjan, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Kenya, le leader de l'opposition Raila Odinga a énuméré ce mardi devant la presse une série de conditions à sa participation à l'élection présidentielle du 17 octobre, date choisie par la Commission électorale nationale après l'invalidation du scrutin du mois dernier. Monsieur Odinga a critiqué le fait que la commission électorale avait fixé lundi la date du nouveau scrutin sans consultation avec l'opposition. Et parmi les conditions qu'il pose figure entre autres un audit du système électronique de la commission nationale électorale, la démission de plusieurs de ses membres et la possibilité pour toute personne éligible de se présenter aux élections, y compris les 6 autres candidats du 8 août, plus lui-même et le président sortant Uhuru Kenyatta. Il n'y aura pas d'élection le 17 octobre, sauf si les termes et conditions que nous avons énumérés sont remplis par la commission électorale, a averti Raila Odinga, qui a donné ses détails à Nairobi en présence des principaux leaders de sa coalition d'opposition NASA. Au Gabon, les partisans de Jean Ping, le chef de file de l'opposition, rêvent d'un retournement de situation à la Kenyane. Un rassemblement de quelques centaines de militants a de nouveau été dispersé par les forces de sécurité lundi à Libreville. Jean-Roger Bion.
Oui, ils étaient environ 300 manifestants vite dispersés près du QG de l'opposant alors qu'ils commençaient une marche vers l'aéroport. Le modèle kenyan a fait des émules dans la galaxie Jean Ping, l'un des porte-parole de la coalition de la Nouvelle République, CNR, autour du candidat malheureux à la dernière présidentielle gabonaise, ne s'en est pas du tout caché, déclarant à l'AFP « Initialement, nous devions aller jusqu'au Sénat lire une motion avant d'ajouter que le Gabon, comme le Kenya, aspire à un peu plus de démocratie. » Les manifestants avaient attendu le leader de l'opposition qui ne s'est finalement pas présenté. Plus tôt dans la journée, les forces de sécurité avaient barré l'entrée du lieu initial du rassemblement, le collège de Nchorere, au centre-ville. Le ministère de l'Intérieur n'était pas en mesure de préciser lundi soir s'il y avait eu des interpellations. Le 18 août, Jean Ping avait appelé les Gabonais à se lever comme un seul homme. Avec d'autres opposants, M. Ping a été interdit de sortir du territoire par les autorités qui dénoncent, je cite, ses appels aux troubles à l'ordre public. M. Ping conteste la réélection de son adversaire Ali Bongo Ondimba un an après l'élection du 27 août 2016.
Crise au Burundi, l'ONU a exhorté la CPI, la Cour pénale internationale, à ouvrir une enquête sur des crimes contre l'humanité qui seraient commis par les autorités burundaises. La réaction de Bujumbura ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement burundais dénonce un complot occidental qui restera sans effet, dit-il. Écoutez ce qu'en pense Louis Michel, ancien ministre belge des Affaires étrangères et responsable humanitaire de l'Union européenne.
Monsieur Nkurunziza recrée les conditions d'un génocide au Burundi. Et je pèse mes mots. Alors moi, je ne souhaite pas que la communauté internationale doive assumer la responsabilité morale qu'elle a dû assumer, qu'elle assume encore aujourd'hui, en étant passif par rapport à ce qui s'est passé, si vous vous rappelez, en 94 au Rwanda. J'ajoute d'ailleurs que l'Union africaine aussi devrait être un peu plus active dans le sujet. Ça la concerne au premier chef. Aussi, Nkurunziza n'a en fait qu'une seule visée, c'est de faire semblant qu'il y a un dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il ne veut pas de dialogue, donc il faut lui imposer un dialogue. Et je pense que, par exemple, en lui coupant des soutiens, c'est déjà fait au niveau de l'Union européenne, puisqu'on continue à financer des projets humanitaires, mais il ne bénéficie plus, par exemple, d'aide budgétaire directe. Donc il faut absolument lui mettre une pression maximale pour qu'il comprenne que la seule voie de sortie, c'est le dialogue.
Louis Michel, ancien ministre belge des Affaires étrangères et responsable humanitaire de l'Union européenne. En RDC, les sociétés pétrolières et le gouvernement discutent depuis lundi des moyens de désamorcer la crise d'approvisionnement en carburant des stations-service de la capitale. Kinshasa, conséquence de la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar, Bagassi Koura.
La pénurie commence à se faire menaçante dans la capitale Kinshasa. Les sociétés achètent en effet le pétrole en dollars et le revendent en francs congolais, un franc qui a fortement perdu de sa valeur depuis le début de l'année par rapport à la devise américaine. Les prix sont réglementés à 1380 francs congolais pour un dollar. Or, ce taux est irréel car le dollar est plus haut, a expliqué Emery Mbashi Bopé, vice-président du groupement des sociétés pétrolières privées. Nous avons mis en place une commission d'experts pour proposer des solutions, a expliqué pour sa part le ministre de l'économie, Joseph Kapika, refusant de se prononcer sur la question présente dans tous les esprits, la possible hausse du carburant à la pompe. Le litre coûte actuellement un peu plus de 1700 francs congolais.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes maintenant. Les cinq derniers mois ont été meurtriers au Cameroun et au Nigeria. Amnesty International a documenté au moins 381 civils tués par les islamistes de Boko Haram. La recrudescence des attaques a augmenté le nombre de victimes et aggravé la situation humanitaire. Eric Manirakiza a joint en Italie la chercheuse d'Amnesty International dans la région du lac Tchad, Yaria Allegrozzi.
Il y a eu effectivement une intensification des attaques et des attentats suicides de la part de Boko Haram dans toute la région du lac Tchad et en particulier dans l'extrême nord du Cameroun et dans le nord-est du Nigeria, avec une conséquente et assez préoccupante aussi augmentation des morts parmi les civils. On a observé plus de 30 attentats suicides dans l'extrême nord de ce pays. Pendant une saison des pluies, il y a toujours une période très favorable pour Boko Haram pour mener ses attaques, mais qui en même temps a été absolument très meurtrière pour les populations civiles.
Pourtant, il y a beaucoup de moyens qui sont déployés pour vaincre Boko Haram. Est-ce que ce groupe djihadiste est devenu plus puissant que les armées de la région?
Les armées de la région ont effectivement mené des efforts très importants pour pouvoir lutter contre les insurgés dans la région du lac, aussi à travers une force multinationale. En même temps, il faut observer le déplacement des combattants de Boko Haram de la forêt de Sambisa au Nigeria jusqu'au mont Mandara au Cameroun à la suite des opérations conduites par l'armée nigériane en décembre 2016 pour vider la forêt de Sambisa qui était le quartier général de Boko Haram et qui demeure un des endroits les plus importants pour les insurgés, peut expliquer en partie les régains des attaques au Cameroun.
Et comment se présente la situation humanitaire?
L'intensification des attaques de Boko Haram a poussé des milliers de personnes à fuir leur maison et les agences humanitaires ne peuvent pas arriver partout, surtout dans les endroits les plus isolés, dans les zones les plus reculées où les gens se sont déplacés. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui restent dans la brousse. Il y a des gens qui ont tout perdu, leur maison, leur famille, des enfants qui ont été privés de l'école, des infrastructures qui ont été détruites, y compris des écoles, des hôpitaux. Et il y a également des centaines de personnes, et surtout des jeunes, qui ont été enlevés, qui ont été recrutés par force par Boko Haram. Le recrutement des enfants soldats et l'utilisation des mineurs, notamment des filles, pour mener des attaques suicides. Il faut dire vraiment l'utilisation des enfants comme arme de guerre.
La région du lac Tchad peut-elle être vivable un jour?
Stabiliser la région du lac Tchad va demander des efforts conjoints de tous les pays de la région, bien sûr, et aussi l'appui de la communauté internationale pour adresser les causes les plus profondes de ce conflit.
La chercheuse d'Amnesty International, Yaria Allegrozzi, jointe en Italie. En Côte d'Ivoire, les populations de Katiola vivent dans la peur après l'évasion de près de 95 détenus de la prison de la ville. Au micro de John Lindon, un habitant de Katiola, dont nous tairons le nom pour des raisons de sécurité, s'inquiète de la situation sur place.
Nous sommes toujours dans une discours de peur. À Katiola, ici, ce qui s'est passé, vraiment, c'est bizarre. On se pose la question, on n'arrive pas à trouver la réponse. Les autorités doivent véritablement mettre un système pour pouvoir mener une réflexion ou s'il faut même créer un colloque pour voir exactement quel est le problème des évasions en Côte d'Ivoire. Est-ce que la sécurité est effectivement assurée au niveau des prisons? Est-ce que le personnel est en nombre suffisant? Est-ce qu'il y a une qualification pour ces différents prisonniers qui viennent? Parce qu'aux dernières nouvelles, on nous aurait dit qu'il y aurait des prisonniers qui venaient d'Abidjan et qu'on a pu mettre dans la prison civile de Katiola Et aujourd'hui, on ne sait pas si c'est ces nouveaux venus à la prison civile de Katiola qui ont effectivement pu organiser cette situation. Vraiment, nous ne savons pas. On attend toujours que les gens arrivent à nous situer.
Un habitant de Katiola, joint par John Lindon en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.